Enfin, j'ai envie de dire que ça, si cliché que ce soit, j'ai envie de dire que ça a tout changé parce que c'est une expérience, enfin, c'est bouleversant comme expérience. À la fois, on rentre dégoûté du genre humain en se disant qu'on est dans un monde corrompu et vil et que c'est horrible ce qui se passe. Et à la fois, on rentre émerveillé des rencontres qu'on a faites. Charlotte, j'ai 25 ans et je suis diplômée depuis mai 2020 en anthropologie du développement. Voilà, donc j'ai fait des études en sciences humaines et en technique d'enquête en sciences sociales. Et j'ai fait une mission avec le DEFAP entre 2017 et 2018. Et c'était la mission EAPPI, donc accompagnement œcuménique en Israël-Palestine. Ou en France, on dit plus témoin de paix. Et voilà, donc je suis partie 3 mois à Jérusalem. Moi, j'étais dans l'équipe de Jérusalem et j'ai pu visiter plusieurs autres équipes à Hébron et Tulkarem. Et voilà, j'ai passé 3 mois là-bas à faire des missions avec les activistes pacifistes palestiniens et israéliens il y a 3-4 ans de ça maintenant. Et c'était une expérience magique avec le DEFAP. Alors, mes missions avec pour EAPPI, on avait plusieurs. Alors, ça remonte un peu, il faut que je m'en souvienne. Mais il y avait tout ce qui était surveillance des checkpoints. Donc, en Israël, et du coup, bah, plus en Palestine, il y a des checkpoints. Il y a entre guillemets des checkpoints légaux qui sont sur les frontières reconnues par l'ONU. Mais il y a aussi des checkpoints qui sont à l'intérieur du territoire palestinien, ce qui permet de grignoter un peu de territoire. Et c'est des checkpoints où on surveillait en fait le fait que les Palestiniens puissent passer de l'autre côté de la frontière. Donc là, c'était vraiment une veille pour voir bah, s'il y avait une moyenne dans les personnes qui étaient autorisées à passer ou s'il y avait des incidents sur ces checkpoints. Donc là, c'était vraiment ce qu'on appelait assurer une présence dissuasive et protectrice, c'est-à-dire notre présence devait faire en sorte que le passage au checkpoint se passe bien, ou du moins qu'il n'y ait pas plus d'accidents que d'habitude. Et on comptait les gens et on envoyait nos résultats toutes les semaines, je crois, à l'ONU pour voir. Donc c'était de la surveillance du passage des frontières. On faisait aussi ça. Alors moi j'étais dans l'équipe de Jérusalem, on faisait aussi de la surveillance des checkpoints qui sont à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, notamment à côté du lycée. Donc c'était pour voir s'il y avait des entraves à l'accès à l'éducation. Donc dès qu'on voyait une arrestation de mineurs à ce checkpoint-là, on devait en faire référence pas au bureau de APPI et ils transmettaient nos données à des institutions un peu plus haut placées. Et les checkpoints, donc c'était pour vérifier l'accès à l'éducation, l'accès aux lieux de prière aussi. Donc on faisait une surveillance des checkpoints le vendredi pour voir si les Palestiniens pouvaient se rendre à Jérusalem pour le jour de prière. Et donc voilà, éducation, prière et travail. Donc ça, c'était une de nos missions qui nous prenait le plus de temps. Ensuite, on faisait aussi de la présence, enfin, on accompagnait certaines manifestations, notamment le vendredi, on avait deux manifestations qui s'enchaînaient. C'était une du côté israélien, donc à Jérusalem-Ouest, où on accompagnait les femmes de Women in Black, qui sont des femmes israéliennes qui manifestent tous les vendredis pendant 1 heure pour lutter contre l'occupation et contre la colonisation. Donc là, c'est surtout du soutien parce qu'elles sont pas du tout nombreuses et elles se font harceler, voire agresser. Donc nous, on est là bah, pour les soutenir dans leur démarche et qu'elles continuent de le faire parce que bah, elles sont menacées. Donc c'est bien de montrer son soutien. Et juste après, on avait la manifestation dans un quartier de Jérusalem-Est. C'est un quartier palestinien où il y a énormément de délocation et de destruction de maisons. Enfin, il y a plein de Palestiniens qui sont chassés de leurs maisons pour installer des familles des familles israéliennes. Et du coup, c'était pareil, c'était une mission de soutien pour ces personnes qui luttaient là. Donc, on faisait ça. Qu'est-ce qu'on faisait aussi? Ah oui, à Jérusalem, une des missions importantes, c'était d'aller à l'intérieur de l'esplanade des mosquées, sans aucun signe religieux ni le signe de la veste, juste pour vérifier que, bah, pareil que quand on faisait de la surveillance de checkpoint, que les personnes aient bien accès aux lieux de prière et qu'il n'y ait pas de provocation à l'intérieur des lieux de prière. Parce que l'esplanade des mosquées, depuis je ne sais pas combien de temps, ça varie je crois selon les périodes, il y a une association juive orthodoxe qui organise des visites guidées spéciales pour les juifs orthodoxes à l'intérieur de l'esplanade des mosquées, ce qui est normalement interdit. Du coup, nous, on faisait un peu une veille pour savoir est-ce qu'il y avait beaucoup de ce genre de visites, comment les personnes réagissaient, etc. Donc voilà, on faisait ça. Et oui, autre mission très importante qu'on faisait avec l'équipe de Jérusalem, c'était tout ce qui est visite des communautés bédouines de la zone E1. La zone E1, c'est une zone qui entoure Jérusalem. C'est entre Jérusalem et le mur de séparation. Et en fait, c'est une zone qui est très très menacée de colonisation, où les colonisations s'étendent de plus en plus, parce que si le gouvernement israélien arrive à annexer ce territoire, la Cisjordanie sera coupée en deux. Et en fait, la zone E1, c'est une zone particulière parce que elle a été décrétée dans les accords d'Oslo comme no man's land, donc des zones où il y a soi-disant personne. Et en fait, c'est là où se sont installés beaucoup de Bédouins en 1948, quand ils sont partis du Négev. Et du coup, ces communautés bédouines, elles subissent énormément de harcèlement de la part des colons. Donc, il y a des colons des colonies aux alentours qui viennent, qui volent le bétail ou qui juste, enfin, intimident, ce qui peut faire très peur. Et il y a aussi beaucoup de destruction de ces camps de bédouins, justement pour étendre la colonisation. Du coup, nous, on devait venir plutôt les week-ends, parce que c'est lors des week-ends en général que les colons viennent et intimident les communautés bédouines. Et du coup, là, c'était vraiment avoir une présence, donc de nouveau cette présence dissuasive et protectrice. Le fait que des membres de la communauté internationale soient là, c'était censé un peu minimiser les tensions et ça devait réduire le risque de harcèlement. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on était là, en général, les colons venaient pas, on n'avait pas une présence continue non plus. Donc voilà, et on venait à chaque fois qu'ils avaient un ordre de démolition, ce qui arrivait régulièrement, et du coup on suivait la situation, et après nous on s'assurait qu'ils étaient bien en contact avec des avocats, etc. Donc voilà, on n'avait aucun rôle juridique, mais on prévenait l'ONU dès que ça arrivait, donc on prévenait les instances compétentes à chaque fois. Et voilà, et c'était, il y a énormément de soutien moral dans ce genre d'action. C'est surtout pour être là quand la situation est difficile. On ne changeait pas forcément grand-chose, mais c'était du soutien. C'était être là, être présent dans des moments très difficiles et voilà, et s'assurer que bah, les Bédouins ne sont pas oubliés parce que c'est souvent les grands oubliés des accords de paix dans les questions du conflit israélo-palestinien. Donc voilà, ça c'était une mission très très importante et qui était assez agréable à faire parce que c'était une communauté très accueillante. Donc on faisait ça. Et on avait aussi, on devait entretenir les liens avec la communauté chrétienne de Jérusalem. Donc ça c'était moi qui allais en général tous les dimanches. Donc le dimanche c'est pas un jour de week-end, enfin c'est le premier jour de la semaine en Israël, en Palestine, vu que leur week-end c'est le vendredi samedi. Donc il y a peu de chrétiens qui vont à la messe le dimanche. Et moi j'y allais, là c'était vraiment aussi pour apporter un soutien, une présence et maintenir les liens, vu que EAPPI, c'est un programme qui s'est créé en réponse aux églises chrétiennes de Palestine. Du coup voilà, c'était aussi, c'était histoire de faire un relais, donc on s'échangeait nos informations, quand il y avait des choses à se dire, c'était un moment d'échange. Voilà, c'était des liens. Donc moi j'allais à la messe en arabe, donc je comprenais rien, mais c'était important d'y aller. Ils étaient contents de voir que bah il y avait EAPPI était toujours là. Et sinon mes collègues, elles allaient à la messe luthérienne, qui était une messe en général en anglais. Mais voilà, c'est histoire de garder des liens avec la communauté chrétienne qui est quand même très active. Et on faisait aussi, on allait rencontrer pas mal d'associations de la vieille ville de Jérusalem, notamment une association, je crois, elle s'appelait Al-Quds. Et en fait, c'était histoire de maintenir les liens avec les associations de terrain, les associations d'activistes pacifistes. C'était important de les rencontrer pour dire, bah, nous, qu'est-ce qu'on voyait, aussi coordonner nos actions. Par exemple, si les checkpoints, on n'y allait pas tous les jours, c'est parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres associations qui assuraient l'éveil des checkpoints. Donc, il y avait une vraie volonté de s'organiser sur le terrain. C'est ce que j'aimais bien avec EAPPI. C'est qu'on s'organisait pour être présent là où il faut, quand il faut, seulement à la demande des personnes concernées. On ne s'imposait jamais. Et du coup, voilà, il y avait une grande coordination. Et ça, ça, j'aimais bien. Donc voilà, c'est un peu fouillis, mais c'était mes missions à Jérusalem. Je crois que j'oublie rien. Alors oui, je dis on parce qu'on était vraiment une équipe. Donc il y a à la fois le grand groupe. Donc moi, j'étais l'équipe 68 ou 69, je crois. Donc des groupes qui sont arrivés avec EAPPI. Donc en fait, tous les 3 mois, il y a un roulement. On reste que 3 mois parce que c'est la longueur de visa qu'on peut espérer obtenir si tout se passe bien. Donc c'est pour ça qu'on restait 3 mois. Et c'est aussi pour ça qu'on a une veste distinctive, parce que la veste, le fait qu'on roule, en fait la veste est la seule chose qui est présente. Et ça permet vraiment aux personnes de nous reconnaître et de ne pas être trop bouleversées par le fait qu'il y a un roulement. Donc l'uniforme était important, on représente quelque chose et ça assure la présence en continu. Donc voilà, donc ça c'était important, on fait vraiment partie d'un corps. Et sinon, donc voilà, on était... Je crois qu'on a à peu près une trentaine par session. Et il y a 8 placements. Voilà. Et du coup, moi, j'étais dans le groupe de Jérusalem et j'étais avec mes 2 collègues, Alice et Aileen. Donc, Aileen qui était new-yorkaise et Alice qui venait de Londres. Et on faisait tout ensemble avec notre chauffeur qui était bien plus que notre chauffeur. Firas, c'était notre traducteur, c'était notre radio, c'était notre agenda. Les chauffeurs font vraiment partie de l'équipe. Donc quand je dis on, c'est notre petite équipe de 4 et on faisait tout ensemble. Donc en général, par placement, on est obligé d'être minimum 3 par ville. Et quand on va en mission, il faut toujours qu'on soit 2. On ne fait jamais rien seul, par mesure de sécurité, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être 3 par placement pour être sûr qu'on soit toujours 2 à faire une mission et qu'on puisse se reposer. On avait un jour de repos par semaine, je crois. Donc voilà, plus des petites vacances par session. Et voilà, donc nous, on était 3 et ça allait jusqu'à 5 dans les placements. Donc voilà, mais l'équipe est très très importante. C'est vraiment la famille qu'on a sur place. Et j'adorais la mienne et je suis encore en contact avec elle. Alors, des rencontres qui m'ont marquée, j'ai presque envie de dire toutes, parce qu'on tisse vraiment, alors déjà, avec les membres APPI, donc on va dire les témoins de paix que nous étions, c'était vraiment des rencontres magiques, parce qu'on arrive là, il y a pas mal de personnes qui faisaient le programme une deuxième fois, donc ils deviennent un peu nos mentors. Et après, on vient tous d'endroits différents, donc on se retrouve, on a tous laissé nos familles, nos amis, nos chez-nous derrière nous. Et on se retrouve tous ensemble, donc déjà c'est des rencontres très très marquantes. Et on passe en tout, sur les 3 mois, on passe 3 semaines ensemble. Parce qu'il y a la première semaine, on a une semaine de formation, où là on est tous ensemble à Jérusalem, et on est formés, donc c'est un peu une semaine d'intégration. Et c'est chouette. Ensuite, à la moitié des 3 mois, on a une semaine ensemble, histoire de faire une coupure, et puis de se retrouver, de voir où on est, c'est aussi l'occasion d'assister à des conférences, de faire des visites en groupe. Et ensuite, il y a la dernière semaine où on nous prépare à partir, puisque partir, c'est presque plus compliqué qu'arriver. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment le groupe. J'ai adoré mon groupe et surtout mes 2 collègues. Mes 2 collègues, elles étaient absolument géniales. Et vraiment, Aileen. Donc c'était marrant parce que moi j'étais la plus jeune du programme et elle c'était la plus vieille. Elle avait genre 68 ans mais elle les faisait pas du tout. Mais c'était un peu notre maman du groupe et elle était juive. Alors pas pratiquante mais elle était d'une famille juive et sa fille vivait en Israël. Et du coup elle était hyper inspirante parce qu'elle avait... Enfin, je pense qu'elle était plus dure que tout le reste de l'équipe envers le gouvernement israélien. Elle savait tout, c'était un puits de connaissances, elle était indignée de ce qu'on faisait en son nom. Et je trouve que c'était un vrai bel exemple d'engagement. Elle était retraitée, elle avait mal aux jambes, mais elle était là avec nous et elle était super investie sur le terrain. En plus, elle parlait hébreu, ce qui pouvait être super utile. Donc voilà, Aileen, ça a vraiment été enfin, c'était vraiment une très belle personne avec qui j'étais très très contente d'être en mission. Et sinon, sur le terrain, il y a un chef d'une communauté bédouine, Jabal al-Baba. Je sais même plus si je prononce bien. Et on s'entendait vraiment très bien. J'adorais cet homme. Il avait plein d'idées pour faire avancer la lutte. Et du coup, bah, il était chef d'une communauté bédouine. Du coup, il était musulman. Mais pour remercier la communauté chrétienne, il avait fait un énorme arbre de Noël. Moi, j'étais à la période de Noël. Donc, il avait fait un énorme arbre de Noël sur la montagne de son campement, en signe de remerciement, etc. Et vraiment, on s'entendait super bien. Donc, il parlait à peine anglais. Moi, je parlais absolument pas arabe, mais on arrivait à s'entendre, on s'entendait bien. Et ce qui est assez incroyable, c'est que peut-être un an après, ou quelques mois après, mais quand même un bout de temps après, il est venu à Paris et en Europe pour faire une sorte de tournée pour plaider la cause des Bédouins en Palestine. Et il est venu à Paris et on s'est vus et il m'a ramené une veste bédouine qu'on brodait des femmes là-bas, donc il m'avait ramené un cadeau, et c'est ma veste, j'adore cette veste, c'est un cadeau qui m'a énormément touchée, et j'aimais bien, parce qu'il enfin, il était tout simple, il demandait rien, il était super reconnaissant, alors que bah, sa situation, elle était quand même super difficile, et ça, c'est vraiment un souvenir que je chéris particulièrement. Donc voilà, donc il y avait cette personne-là, et une dernière personne pour m'arrêter là, parce que bon, sinon je pourrais y aller pendant longtemps. C'est Samy. Samy, c'était un vendeur de la vieille ville de Jérusalem. Et c'était un personnage exceptionnel parce que, alors déjà, c'était une super personne ressource, il savait tout ce qui se passait. Donc, il nous donnait des infos. Et lui, il a une boutique de bijoux brocante dans la vieille ville. Et en fait, il collectionne des objets qui datent d'avant la création de l'État d'Israël. Du coup, il avait des objets absolument géniaux. Il avait, par exemple, un livre enfin, en hébreu, avec marqué imprimé en Palestine, donc ce qui est totalement improbable. Donc, il avait plein de choses. Il avait des billets de banque d'avant, des passeports d'avant. Enfin, à lui tout seul, c'est la mémoire de cette terre. Et dès que je faisais un tour dans la vieille ville, j'allais le voir. On prenait un café et il me montrait ses trucs. Samy, il était génial. Et voilà, je me dis, si j'ai l'occasion de retourner à Jérusalem un jour, le premier truc que je fais, c'est je retourne le voir. C'était là pour le coup, on avait des relations de travail avec tout le monde, on avait une relation particulière parce qu'on avait besoin d'interprètes, et à chaque fois, on parlait de sujets lourds. Mais Samy, c'était vraiment mon ami, et ça faisait du bien d'aller le voir. C'était ma petite pause pour souffler. Et voilà, j'ai plein de bijoux qui viennent de lui. Donc c'est cool, c'est mes petits bouts de Palestine sur moi, il me les a tout offerts. Et je m'arrête là, mais toutes les autres personnes auraient mérité que je parle d'elles. Enfin, j'ai envie de dire que ça, si cliché que ce soit, j'ai envie de dire que ça a tout changé parce que c'est une expérience qui est vraie. C'est vraiment, enfin, c'est bouleversant comme expérience. À la fois, on rentre dégoûté du genre humain, en se disant qu'on est dans un monde corrompu et vil et que c'est horrible ce qui se passe. Et à la fois, on rentre émerveillé des rencontres qu'on a faites. Et c'est marrant parce que quand on a fait la semaine de départ, tout le monde devait dire un peu ce qu'il avait pensé de cette expérience. Et on a tous dit la même chose, c'était aussi merveilleux qu'affreux. Et quand on rentre de ça, bah, il y a une envie, je trouve que moi, ça m'a donné une envie de solidarité. Enfin, si on fait ça, c'est qu'on est déjà, enfin, on agit déjà dans un esprit de solidarité. Mais je trouve que cette mission, elle montre vraiment que c'est important d'agir pour ce qui est juste, même et peut-être même surtout quand, entre guillemets, ça sert à rien. Parce que, on part pas, en fait, en espérant changer les choses. On a conscience que la situation, elle est bien plus grande que nous, elle nous dépasse. Enfin, pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit, quand je parle de ce programme-là, on m'a dit, genre, ouais, t'as rien changé. Je dis, bah oui, mais juste montrer, en fait, qu'on se soucie de quelque chose et quand quelque chose de terrible arrive, juste ne pas être indifférent à ce qui se passe, bah, c'est super important. Et je sais que bah, en France, dans mon entourage, dès qu'on parle d'une situation, par exemple, là, je vais penser à la situation climatique, tout le monde a un peu tendance à baisser les bras et à dire je suis trop petit pour faire quelque chose. Je trouve que la mission en Palestine, elle a montré que peu importe si le geste est petit, c'est important d'être dans la compassion et de jamais se résigner à l'indifférence. Même quand tu es dans le trou noir et que tout ce qui t'arrive est terrible, avoir quelqu'un qui juste dit, bah, je m'intéresse à ton histoire, c'est horrible ce qui t'arrive et ce n'est pas juste. Alors c'est sûr que ça change rien, mais émotionnellement, ça, bah, ça change tout. Et je trouve que voilà, on a une petite tendance à la résignation. Et la Palestine, ça m'a bien montré que bah que non. Et là, j'ai rencontré des personnes depuis, elles se battent depuis quasiment le premier jour de leur vie. Elles ont conscience que ça va être super difficile de changer les choses, mais elles le font quand même parce que ouais, faut pas se résigner quoi. Moi, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais je le dis un peu comme je le pense. Donc voilà, mais c'est ouais, je trouve que c'est une leçon de courage incroyable. J'ai rencontré plein de gens, surtout dans la vieille ville de Jérusalem. Donc il y a pas mal de ce qu'on appelle des Arabes israéliens, donc c'est des Palestiniens qui ont les papiers d'identité israéliens. Et ces personnes-là ont souvent l'opportunité d'aller vivre ailleurs, notamment en Europe. Et il y en a plein qui m'ont dit, bah, on vivrait bien mieux en Europe, mais si on part, c'est fini. Et je trouve que c'est des gens qui sont tous les jours victimes d'humiliation, qui ont tous les jours peur, qui ont tous quelqu'un de leur famille en prison ou qui est décédé. Et ils sont là et ils restent. Et je trouve ça beau, en fait, cette forme d'engagement où on n'abandonne pas son pays, on n'abandonne pas ses frères et surtout on ne cède pas à la violence. J'ai vu très très peu de personnes vraiment virulentes dans leurs propos. Enfin, tous, ils veulent la paix. Voilà, je trouve qu'ils étaient très inspirants. Enfin, vraiment, la Palestine. Et Jérusalem même, enfin, moi j'étais pas trop du côté israélien, mais Jérusalem, je garde un souvenir émerveillé de la leçon que ça a été. Et voilà, c'était une belle leçon de courage et d'amour aussi. J'ai été très impressionnée par le self-control de certaines personnes. Donc voilà, ce que ça m'a apporté. En fait, dans la vieille ville, et je me suis offert ça, c'est une calligraphie d'un poème de Mahmoud Darwish qui dit « Il y a sur cette terre ce qui mérite d'être vécu ». Et toutes les semaines, j'allais dans un café où ils avaient des recueils de poèmes en français de Mahmoud Darwish. Et il a vraiment été d'un énorme réconfort quand ça allait pas, quand j'étais triste, quand j'étais désespérée. Et du coup, bah, ce tableau, il est sur mon bureau. Et voilà, je me rappelle que de temps en temps, il y a sur cette terre ce qui mérite d'être vécu.